comme la femme de Lot regardait en arrière. Nous voulons aller de l'avant et nous voulons aller là où tu veux. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour la guidance de ton esprit. Nous te remercions, Seigneur, pour l'élégance de tes gestes envers nous. Et nous te prions que nous puissions aussi avoir cette élégance dans notre vie. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va faire encore un chant, si vous voulez bien, ou deux. Qu'est-ce que tu nous proposes, là? Le 37, Jésus revient pour nous chercher. Ça, c'est un vieux chant. On le faisait quand on habitait encore à Sarcelles. On allait dans la rue et puis on le chantait. Et alors les gens s'arrêtaient, puis ils nous écoutaient chanter, puis après on prêchait. Ils nous écoutaient prêcher, ils restaient là. C'était des moments vraiment bénis. C'était formidable, on était jeunes et beaux. Alors on faisait ça comme ça. Jésus revient pour nous chercher, car il nous aime et il veut nous donner à nous qui s'aiment, nous mène terre. Les gens qui s'aiment, jamais de guerre. Il est là, mais la misère, de la joie sur toute la terre. Lorsque je suis dans la souffrance, Seigneur Jésus, c'est à toi que je pense. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Les gens qui s'aiment, plus jamais de guerre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maître?
Vers toi, mon Dieu, le
32. Vers toi, mon Dieu, le 32. Et puis, on va rentrer dans un petit moment. Et ouvrir Colossiens chapitre 2 et verset 10, s'il vous plaît. Colossiens 2, 10. Comme à l'habitude, c'est une prédication un peu spéciale, mais voilà, je suis spécial. C'est comme ça, et puis voilà. Colossiens 2, 10. On va prendre le verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui est rarement abordé dans les églises. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est bien qu'on nous parle de Zachée qui est monté dans son arbre, qui est descendu de l'arbre, de Bartimée, de ces choses-là, de Moïse, la mer rouge, la mer calmée. Tout ça. Mais je pense que de temps en temps, il faut aussi quand même qu'on apprenne des choses du comportement chrétien d'une façon un petit peu plus pratique. Et je voudrais aborder aujourd'hui le sujet fort important de l'élégance. Ah bon? Parce que quand on prononce ce mot, l'élégance, la première idée qui est associée à ce mot, qui apparaît immédiatement, ben c'est le mot superficialité et apparence. Mais oui, mais quand même, on est apparent, non? Vous ne me voyez pas? On est apparent. Mais pensez-y. Il y a des mots qui sont élégants et d'autres qui ne le sont pas. Hein? D'autres qui peuvent blesser, d'autres qui peuvent détruire. Pourtant, les mots, ils sont composés tous des mêmes lettres. Et c'est pourquoi je dis l'élégance n'est pas qu'une qualité extérieure, mais c'est aussi une partie, et c'est surtout une partie visible de notre âme. Elle est visible par les autres. L'élégance, c'est pas que dans les vêtements qu'on porte, mais je dirais plutôt qu'elle est dans la manière dont on les porte. La parole de Dieu, nous dit la Bible, est une épée. Et c'est pourquoi nous avons mis une épée ici, avec les signes de David, la menorah, toutes ces choses. Et la parole de Dieu est une épée. Eh bien, l'élégance n'est pas dans la façon dont nous saisissons de l'épée, c'est-à-dire dont nous la comprenons. L'élégance ne réside pas dans le fait de comprendre la parole de Dieu, mais dans la façon que nous avons de la manier pour notre propre vie et aussi dans nos dialogues avec les autres, avec aussi les démons que nous avons à chasser au nom du Seigneur Jésus. Dans les dialogues, le maniement de l'épée peut éviter une guerre. C'est une arme, mais elle peut éviter une guerre. Le maniement de l'épée peut être élégant, je veux dire, le maniement de la parole de Dieu peut être élégant. Ou pas. Par exemple, face à un pécheur, l'épée, la parole, peut tuer. Elle peut tuer. Ou alors elle peut le faire vivre. C'est tout l'art du porte-parole de Dieu, l'élégance. Dans la maladresse, il n'y a pas d'élégance. Et quand on est jeune chrétien, ou quand on est un jeune prédicateur, ou quand on est un prophète qui débute, eh bien, on manque très souvent d'élégance. L'élégance ne se trouve pas dans celui qui est maladroit. Alors, le jeune converti, ou le prophète qui commence à manifester son don, c'est pas qu'il est méchant, mais c'est que juste, il manque d'élégance parce qu'il est maladroit. Il est maladroit. Et afin qu'il devienne adroit, et qu'il utilise à son tour l'épée de la parole avec élégance, eh bien, il doit apprendre. Dans tous les corps de métier, il y a des gestes. Moi, je ne suis pas du tout un manuel, et pourtant j'ai fait un apprentissage manuel dans ce qui est de plus précieux, puisque j'ai fait un apprentissage d'ensemblier décorateur. Alors, vous imaginez, avec ma maladresse légendaire, moi, ensemblier décorateur. Il y a des gestes dans tous les métiers. On ne tient pas un marteau n'importe comment. On parle par exemple du geste Auguste du semeur. Vous avez déjà entendu le mot, le geste Auguste du semeur? Qui a déjà entendu ça? Vous avez entendu le geste Auguste du semeur. Le mot Auguste, vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Pourquoi, je dis à ceux qui écoutent sur Internet, pourquoi ils rient chaque fois que je dis ça? C'est parce que je fais comme Sarkozy, je hausse une épaule. Je vais vous le dire. C'est une blague entre nous. Pardon, j'aime bien rire aussi. Le mot Auguste signifie qui inspire le respect et la vénération. Et c'est à cause de cette signification-là que les empereurs romains portaient le titre d'Auguste. Auguste, parce que ils imposaient le respect et la vénération même. Une parole peut être dite de façon maladroite, une prophétie peut être dite de façon maladroite, sans élégance, sans porter le titre d'Auguste, elle ne sera pas respectée, simplement parce qu'elle n'a pas le titre, simplement parce qu'elle n'a pas l'élégance, simplement parce qu'elle n'a pas cette augusticité. L'élégance, elle réside dans la simplicité. L'élégance, elle est dépourvue de superflu. Ainsi dit le Seigneur, ta, ta, ta. Calme-toi. Il y a une autre signification au mot Auguste. Est-ce que vous connaissez laquelle? Est-ce que vous savez? Eh bien, Auguste, c'est un clown. Qui c'est ça? C'est un clown, Auguste. C'est l'Auguste, hein, celui qui est mal habillé, qui est maquillé outrageusement et qui est en compagnie du clown blanc, qui lui est sage. Auguste, là, ben, c'est le malfagoté. Vous voyez la dichotomie dans le mot même. Vous avez Auguste qui force au respect et Auguste qui pousse à la moquerie, à la dérision. Tout ça va par deux. Tout va par deux, toujours. Tout va par deux. Le geste Auguste du semeur, c'est un geste sobre. C'est un geste beau. Le geste Auguste du clown, le geste du clown Auguste, c'est un geste grotesque, maladroit. C'est le geste de quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Les mots qu'on dit, ils sont tous construits avec les mêmes lettres. Et ceux qui sont dits avec simplicité, ils rencontrent la vraie valeur de la vie. Prenez Raphaël, le gitan, qui m'a emmené à Jésus. Cet homme qui savait ni lire ni écrire, qui n'a jamais été à l'école. Il commençait toutes ses prédications en disant « Alléluia !» Quand on dit « Alléluia », le diable est en colère. « Alléluia !» Vous savez, j'ai jamais été à l'école. Je cabosse le français, mais je cabosse pas l'évangile. Et c'est vrai, il cabossait pas le message de Jésus. Avec des mots simples, avec des attitudes simples, pas fabriquées, c'était pas le genre avec ces gestes bizarres, religieux. Non, des attitudes simples, eh bien, dépourvues d'artifices. Il parlait et il allait droit au cœur. Il utilisait l'épée d'une façon élégante et efficace. En fait, il maniait l'épée de la parole de Dieu avec élégance et il perçait notre cœur avec. C'est-à-dire, il le perçait à salut. J'en avais écouté, moi, des prédicateurs qui avaient préparé leur sermon 10-15 jours à l'avance. Ils n'avaient rien fait. Mais lui, tchac, 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 touché au cœur. Une pièce de théâtre, ça. Qu'est-ce qu'il y avait de différent chez lui? Qu'est-ce qu'il y avait de différent chez Raphaël? Je vais vous le dire. Quand il parlait, on ne se sentait pas jugé. Quand il prêchait, on ne se sentait jamais condamné. Bien sûr, il prêchait le véritable évangile, c'est-à-dire qu'il ne nous cachait pas que Dieu n'aime pas le péché. Il nous le disait bien, hein? Mais il nous assurait avec une telle fougue que Dieu aimait le pécheur. Tout de suite, ça attirait notre attention, l'élégance. Il allait à l'essentiel. Et mes frères et sœurs, les choses les plus simples de la vie sont les plus ordinaires, sont les plus nobles. Jésus le disait, il disait, regardez les lys des champs, ce sont plastiques, bon. Mais regardez les lys des champs, ils ne filent, ils ne tissent, et pourtant Salomon, même dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien habillé qu'aucun d'eux. Plus le cœur se rapproche de la simplicité, plus il est capable d'aimer sans restriction et sans peur. Plus un cœur peut aimer sans peur, plus il peut faire preuve d'élégance. Quand quelqu'un a peur, il devient maladroit. Parce que l'élégance n'est pas une question de goût. Je voyage beaucoup, mes frères et sœurs. Et parmi nous, nous avons des frères et sœurs africains. Et bien, je peux vous dire, le goût africain, ça n'a rien à voir avec le goût de l'Européen. Rien du tout. C'est tout à fait autre chose. Et alors, chaque culture a sa manière de voir la beauté et de l'apprécier. La beauté en Afrique, c'est autre chose que la beauté en Europe. Par contre, dans chaque village d'Afrique, comme dans chaque village d'Amérique, dans chaque village d'Asie ou d'Europe, je ne sais pas parce que je n'ai encore pas été en Australie, mais je pense que c'est la même chose, eh bien partout là où je suis allé, il y a des valeurs qui montrent l'élégance. J'ai vu beaucoup d'élégance dans des villages où les Blancs n'avaient jamais mis les pieds. J'ai vu beaucoup d'élégance dans la façon d'être hospitalier. Beaucoup d'élégance dans le respect. Beaucoup d'élégance dans la délicatesse des gestes, comme on te verse le thé. comment on te respecte, comment on te montre, comment c'est visible. Par contre, l'arrogance, ça attire la haine. L'arrogance, ça n'éveille pas l'amour et le respect. Et des gens très cultivés qui sont d'une arrogance et qui ont un relationnel puant, je parle ophaltiquement, et c'est difficile, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez appris, c'est le cœur. L'arrogance humilie le prochain. L'élégance lui apprend à marcher dans la lumière. Apprendre à marcher dans la lumière. Vous voyez, on peut trouver quelqu'un et se rendre compte qu'il a une paille dans son œil. Et il se peut que ce soit vrai qu'il ait véritablement une paille dans son œil. Et peu importe que toi tu aies une poutre dans le tien, si tu lui parles sans condamner, sans juger, il va t'écouter, même s'il voit que toi tu as une poutre. Il ne va pas te dire « Ouais, mais toi, ta. » Non, parce que tu vas lui parler sans le condamner, sans le juger. Il y a la façon de dire les choses. Vous voyez, l'élégance et la non-arrogance. Raphaël, il avait, de façon naturelle, l'élégance de rendre les choses compliquées et très simples. Voilà pourquoi il a touché mon cœur. L'élégance, elle est admirée, elle est acceptée, parce qu'elle ne fait aucun effort pour être admirée et respectée. Elle est, ou elle n'est pas. Maintenant, si quelqu'un ne l'a pas, et qu'il vient à Christ, alors en Christ, il trouve toute chose. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Et si tu n'as pas cette élégance de façon naturelle, eh bien, en venant à Jésus-Christ, tu la reçois. Parce qu'en recevant Jésus, tu reçois tout avec. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Comment faire pour manier l'épée de la parole avec élégance? Comment manier toute chose avec élégance? Eh bien, seul l'amour rend cela possible. Seul l'amour. Ah oui, encore une phrase toute faite, Michel. Non, j'explique. Quand Raphaël prêchait, même si ses paroles étaient... Il parlait de l'enfer aussi. Hein, c'est bon, ça fait froid dans le dos tout ça. Et il disait des phrases terribles. Je vais vous en dire une qui va peut-être vous choquer parce qu'il y a un gros mot dedans, mais il disait ça couramment dans ses prédications. Il disait, vous vous moquez de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Vous savez ceux qui se moquent de Dieu? La fourche, hein, là, il parlait de la fourche du diable. Ben, ils l'auront dans le cul. Il disait, vous me direz, mais ce n'est pas très élégant, n'est-ce pas? Eh bien, dans sa bouche, oui. Dans sa bouche, oui, parce que c'était... On voyait tellement l'amour qu'il avait pour les gens, on voyait tellement qu'il voulait que les gens soient sauvés, on voyait tellement qu'il voulait que les gens connaissent Jésus, leur sauveur, qui les aime. Ça transpirait tellement de lui que même cette phrase-là, la fourche au cul, vous l'aurez, ça passait. Vous comprenez, mes frères et sœurs, la chose? Vous voulez braquer quelqu'un, employer les mêmes mots que Raphaël, mais sans amour, vous allez voir. c'est terrible. Vous voyez, l'amour, ça fait toute la différence. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit cherche à nous dire ce matin? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, parce que quand on vient ici, c'est pour louer Dieu le dimanche matin, puis c'est pour apprendre quelque chose quand même aussi pour pouvoir continuer notre semaine. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin? Eh bien, que le travail, c'est la manifestation de l'amour qui unit les gens. Le travail. Par ce moyen, par le travail, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas vivre sans les autres et que l'autre aussi a besoin de nous. Le travail, quand j'ai commencé dans le monde du travail, je parlais tout à l'heure de mon métier d'apprentissage d'ensemblier décorateur, quand j'ai commencé, j'ai dû apprendre. Vous allez voir la relation. J'avais tout comme mon patron. J'avais deux yeux, j'avais deux mains, j'avais une bouche, j'avais un nez, j'avais des pieds, j'avais tout ce qu'il fallait. Hein. J'avais aussi des outils. En plus, ils étaient mieux que ceux de mon patron parce qu'ils étaient neufs. Hein. J'avais des outils, mais j'étais maladroit. Pourquoi? Parce que je ne savais pas. J'avais besoin d'apprendre le geste auguste du métier. Et dans la vie chrétienne, nous avons tout en Jésus-Christ. Cependant, nous sommes maladroits et nous avons besoin d'apprendre. Et quand est-ce qu'on arrête d'apprendre? Jamais. Jamais. On apprend tout le temps. Et c'est ça qui rend la vie intéressante. Parce que moi, si je sais que je comprends tout, je sais tout, j'en ai marre. C'est triste, la vie. Mais de savoir que j'ai encore plein de choses à apprendre pour être encore mieux, pour faire plus plaisir à mon Dieu et pour être plus efficace dans la vie, c'est formidable. Un apprenti en Suisse, il a un temps d'essai de 2 mois avec son patron d'apprentissage. Alors, mon patron d'apprentissage, il s'appelait Marcel Delaideray. Vous pouvez contrôler, hein, il était avenue Béthusy, à Lausanne, tout en haut, sur le plateau, là, vous montez avec le bus, je ne me rappelle plus, le 13, je crois. Eh bien, il s'est vite rendu compte que je n'étais pas tellement doué pour le travail manuel. Je faisais tout de travers, mais vraiment, c'était désespérant. Et comme lui, il était très nerveux, alors les marteaux, ça volait dans l'atelier, moi, je devais me baisser pour ne pas me les prendre dans la tête, c'était terrible. Par contre, ce qu'il a vu, c'est que j'étais humble et que je voulais apprendre. Ça, il l'a vu. Alors, il m'a gardé 3 ans et demi pour apprendre. Lui, il aimait son métier, c'était un perfectionniste. On parle de Claude François comme un perfectionniste casse-pied. Ben, monsieur Marcel Delaideray, c'était Claude François x10. C'était un casse-pied de première, un perfectionnisme, quelque chose d'inouï, inouï. Et moi, le plus grand maladroit du monde. Écoutez, c'est pas ma faute, mais même quand je tenais un marteau, il rouillait. Mais oui, parce que j'avais tellement peur de mal faire que je transpirais des mains et rouillais. Je ne pouvais pas toucher un marteau sans qu'il devienne tout rouillé. Mon patron était désespéré avec moi. Un marteau rouillé sur des tissus qui coûtent 500 ou 600 euros. Enfin, à l'époque, c'était... Mais c'est terrible. Et j'ai pleuré souvent, j'ai pleuré parce qu'il était très dur. Michel, tu es dur. Les gens me disent souvent ça. Mais je voyais que c'était pas contre moi qu'il en avait. C'est qu'il voulait que le métier entre en moi et qu'il voulait que je le fasse aussi bien que lui. C'était un maître et tous les maîtres veulent que leurs disciples soient comme eux. Alors il y mettait tout son cœur et des fois, c'était terrible. Mais c'était la première fois qu'il avait un apprenti, donc il était obligé d'apprendre à avoir un apprenti. Lui aussi, il était maladroit dans sa façon de m'apprendre, mais il y mettait tout son cœur. C'était juste que j'étais lent à faire des progrès. Mais je faisais de mon mieux, et ça quand même, il le voyait, j'avais cette humilité de reconnaître que j'avais besoin d'apprendre, et que lui, il était mon supérieur. Jésus dit, regardez tous les autres, vos frères et sœurs, comme vos supérieurs, pas en tout. Vous savez, moi, je suis pas supérieur à certains d'entre vous sur certains domaines, mais je suis supérieur dans certains domaines par rapport à vous. On a tous quelque chose où on excelle, mais on n'est pas supérieur en tout. Il faut quand même être logique. Et au bout de 3 ans et demi, je suis allé passer mon examen de fin d'apprentissage et je suis sorti le premier de ma classe. Ouh ! Il était fier, hein ? Papa Delaideray. Pourquoi ? Parce que j'avais été humble et que j'avais accepté ses colères, parce que j'avais accepté ses injustices aussi, parce qu'il était vraiment injuste avec moi, son caractère soupolé, parce que je voulais apprendre. Alors oui, et puis aller dans la vie, se comporter n'importe comment, non. Jésus a créé son Église pour que nous puissions, grâce au ministère qu'il a placé dans son Église, apprendre. Apprendre. Jésus compare sa parole à une épée, mais il la compare aussi à de la nourriture, entre autres. La nourriture, pour qu'elle nous nourrisse, il faut bien que quelqu'un la prépare. Alors, il y a 2 types de cuisiniers, 2 types de personnes qui travaillent à la cuisine. Donc, il y a 2 types de travail. Le premier, il va préparer la nourriture par obligation pour gagner son pain quotidien. Et dans ce cas, eh bien, le travailleur ne fait que vendre son temps. Un mercenaire, en quelque sorte. Il se considère comme ça, voilà, c'est mon boulot, je le fais. Bon, voilà. Puis, il regarde l'heure sans arrêt. Et puis il dit, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut bien gagner sa vie. Et puis il y a le second type d'ouvrier, second type de travailleur, de cuisinier. Lui, bien sûr, il accepte aussi de gagner sa vie. Il est aussi là pour gagner sa vie. Il ne travaille pas simplement pour dire, oh, j'adore mon travail, je m'en fous si je ne gagne pas. Non, il vient aussi pour sa paye. Mais il accepte chaque minute d'occuper sa vie pour le dévouement, pour satisfaire les autres. Le second type de travailleur, d'ouvrier, de cuisinier, c'est un véritable cadeau du ciel. Parce que nous pouvons avoir deux personnes qui cuisinent le même repas, avec les mêmes ingrédients, mais le premier, il a mis de l'amour dans ce qu'il fait, tandis que l'autre, il cherche juste à alimenter les autres, à lui faire bouffer, et puis à bouffer lui-même. Eh bien, le résultat sera complètement différent, et il se verra dans des multitudes de petits détails, ne serait-ce que dans la présentation des plats qui sortent de la cuisine pour arriver sur la table. Il y a élégance ou pas. Vous voyez ? Et ça, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Mes frères et sœurs, l'amour ne se pèse pas sur des balances humaines. C'est Dieu qui nous pèse sur les balances, sur ses balances. Et il récompense toujours la personne qui fait le cadeau, qui fait le don, qui fait le kilomètre plus. Prenez compte, Jésus dit, si quelqu'un te force à faire un kilomètre avec lui en portant un fardeau, fais-en deux. C'est beaucoup ça. L'élégance, le plus, le kilomètre plus. La petite tomate rouge sur la feuille de salade pour faire que le plat soit joli. Plus cette personne met de l'amour dans ce qu'elle fait, plus elle récolte d'amour. Pas de cet amour dégoulinant et spirituel à deux balles qui ne servent à rien, mais d'un amour véritablement pratique. Dieu veut que nous travaillions dans sa vigne. Travailler dans sa vigne, ce n'est pas forcément faire de l'évangélisation, mais dans tout ce que nous faisons, au bureau, partout où vous êtes, tout ce que vous avez à faire, nous avons une utilité ou pas dans sa vigne. Alors le démon se présente et il dit, de sa voix suave, « Le travail, mais le travail, c'est un peu comme, tu vois ce rocher là, eh bien, tu dois le pousser chaque jour jusqu'en haut de la montagne, et à la fin de la journée, quand tu arrives en haut, ben le rocher, il redescend tout seul, puis tu dois recommencer le lendemain. » Et tous les gens qui croient le démon disent, « La vie n'a pas beaucoup de sens, c'est simplement une répétition des mêmes tâches, lundi, mardi, mercredi, puis on fait toujours les mêmes choses, et puis voilà, puis il n'y a pas de reconnaissance et tout. » Par contre, ceux qui n'écoutent pas le démon, ils disent, et soit, eh bien, je vais aimer ce rocher. Pourquoi je vais l'aimer? Je vais l'aimer, ainsi, je devrais le porter tous les jours, et je serai tous les jours en compagnie de quelque chose que j'aime. Ah, vous voyez l'élégance? Vous voyez la différence? Tout se passe là, dans la tête et dans le cœur. Mais il y a des gens qui ont besoin de l'apprendre. Apprenez-le si vous avez besoin de l'apprendre ce matin. Apprenez-le. Tenez compte de ce que je vous dis. Vous allez voir votre vie changer par ces choses-là. Vous voyez l'élégance de l'attitude du cœur. Que faites-vous? Comment le faites-vous? Acceptez-vous d'être corrigez, acceptez-vous d'avoir besoin d'apprendre? Non, j'ai tout. En tant que chrétien, j'ai tout pleinement Jésus-Christ, j'ai besoin de rien. Ah, t'as besoin de rien? Ça me fait penser à un texte dans la Odyssée. Je n'ai besoin de rien, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voici, pauvre, misérable et nu, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu et tu ne le sais même pas. Quelqu'un qui est pauvre, misérable, aveugle et nu et qu'il ne le sait pas, c'est un fou. Un jour, je me promenais au Burkina et j'ai vu un monsieur tout nu qui marchait au bord de la route. Je dis, Nicolas, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, ah, mais c'est un fou. Et il est tout nu. Oui. Et je dis, la police fait rien. Ben non, on sait que c'est un fou. Alors, il y a des gens, ils sont tout nus, ils ne le savent même pas. C'est-à-dire qu'ils sont ridicules, ils sont impudiques, spirituellement, dans tous les domaines de leur vie, et ils ne s'en rendent même pas compte. Ce sont les vierges folles. Nous ne sommes plus à l'époque où nous pouvons nous permettre d'être des vierges folles. Il faut acquérir ce que Jésus veut que nous ayons, cette élégance du cœur, qui se manifeste dans tous nos faits, dans tous nos actes posés, dans toutes nos paroles. Vous voyez, que faites-vous? Comment le faites-vous? Acceptez-vous que vous avez besoin d'apprendre ou est-ce que vous ne savez même pas que vous êtes pauvre, misérable, aveugle et nu et vous dites, j'ai tout pleinement Jésus-Christ et écrit Amen. Nous sommes des disciples. Les disciples, la discipline, ce n'est pas un esclavage, c'est un choix. Ne dites pas, ce n'est pas juste. Le sort n'est pas injuste avec les chrétiens. Ce n'est pas vrai. Ils me disent, oui, et tous ceux qui se font massacrer, ça, je vais venir dessus un jour. Ça, je vais vous prêcher là-dessus un jour. Nous sommes tous libres d'aimer ou de détester ce que nous faisons. Tous, nous sommes libres. Personne ne peut connaître l'importance et la grandeur de ce qu'il fait réellement. Personne ne peut savoir. Mais il y a les yeux de Dieu, il y a les yeux des frères et sœurs, il y a les yeux du monde, il y a les yeux des anges, il y a les yeux des démons. Eux, ils voient mieux que vous l'importance de ce que vous faites ou pas. Ce que tu fais maintenant, c'est une mission que Dieu t'a confiée. Regardez, même Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Même Judas. C'est Dieu qui lui a confié cette tâche. Waouh, Michel, qu'est-ce que tu dis? Eh oui, il fallait bien que Jésus soit trahi. Sinon, il ne pouvait pas aller sur la croix. S'il ne pouvait pas aller sur la croix, il ne mourrait pas pour nos péchés. S'il ne mourrait pas pour nos péchés, nous serions encore dans nos péchés. C'est terrible, n'est-ce pas? Alors, ce que tu fais maintenant, c'est une mission que Dieu t'a confiée. Et vous pouvez avoir confiance en Dieu parce que il faut une grande part de confiance. Vous savez, les paysans, ils peuvent semer tout ce qu'ils veulent, mais c'est le soleil, il brille ou il ne brille pas. Hein. La pluie, elle tombe ou elle ne tombe pas. Alors les très très spirituels vont me dire, oui, mais il faut prier. Oui, ben, allez dire ça au Burkina. Allez dire ça aux paysans. Il faut prier. Ils prient, mais ça tombe. Très souvent, ça ne tombe pas. Pourquoi? Ah, pourquoi? Ce n'est pas juste. Le paysan, il fait le nécessaire avec le geste auguste. Il laboure, il sème sa graine et il apprend la patience. Au moyen de la contemplation, il va contempler son champ. Il apprend la patience. On aura des moments de découragement, il y aura toujours des moments de découragement. On verra des fois des récoltes perdues et puis on pensera qu'on a travaillé pour rien. Non, on n'a pas travaillé pour rien. On n'a pas travaillé pour rien. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a eu un village au Burkina Faso, il y a 800 personnes. Et ils ont semé, ils ont labouré. C'est dur, la terre est très dure, puis ils n'ont pas les charrues comme chez nous. C'est tout à la main. Ils ont semé et ils ont prié. Leur Dieu, à leur façon, ils n'étaient pas chrétiens. Mais quand même, ils mettaient tout leur cœur, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils savaient. Et puis la pluie n'est pas venue. Et puis la récolte a été fichue, grillée. Et puis Nicolas est passé par là. Ah, la prière exaucée. Tiens, on peut prier même des faux dieux, puis la prière est exaucée. Dieu sait, connaît les cœurs. Il leur a envoyé Nicolas. Et Dieu rigolait dans le ciel. Et Nicolas leur a parlé, qu'est-ce que c'est, tout. Il y en a un qui a dit, moi si je ne peux pas nourrir mes enfants, je vais me suicider. Il a dit, arrête, parle pas comme ça. Nicolas s'est retiré dans un coin où il y avait du réseau, il m'a téléphoné. Et avec la Michou, on a dit, bon, on va regarder combien il y a dans le compte. Et on a nourri tout ce village pendant un an. Alléluia, avec C'est Faisable, avec l'association C'est Faisable. Vous voyez, Dieu fait les choses de façon formidable. Et le résultat, est-ce que c'est, ah bon, ils ont bien mangé, ils sont bien contents. Non, le résultat, c'est que maintenant il y a une église là-bas où tous les dimanches, ces gens louent Dieu, le vrai Dieu. Amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il se sert de nous, il se sert de vous, il se sert de tout pour arriver à ses fins quand il voit l'élégance, le geste bien fait, le travail bien fait. Mes frères et sœurs, On chante tous la même chanson. On chante l'amour, la paix, la joie, la foi, l'espérance. Et cette chanson, elle a été écrite par un poète. Et puis voilà, mais le poète, il va mourir de faim s'il n'y a pas un berger qui existe, s'il n'y a pas un paysan qui existe. Puis le berger va mourir de tristesse s'il n'y a pas le poète qui compose des chansons pour que le berger puisse les chanter. Vous voyez, on est tous utiles dans ce monde. Alors ce que nous faisons, faisons-le le mieux possible, avec élégance, avec grâce. La Bible nous dit que Jésus grandissait en stature et en grâce. Il était élégant dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait. Même sa façon de chasser les marchands du temple était élégante. Je suis sûr que ce n'était pas n'importe comment. Il a fait très attention aux colombes. Vous avez remarqué ça? Il fait très attention aux colombes. À travers ce que tu fais, à travers ce que tu as appris à faire, tu permets que les autres puissent t'aimer ou pas. On va te prendre en grippe ou pas. Ça vient de ton élégance. Et mon frère, ma sœur, tu apprendras à aimer les autres à travers de ce qu'ils t'offrent. Ce n'est pas tellement les dons, mais c'est l'élégance avec laquelle c'est fait. On ne jette pas une pièce à un pauvre. Ça l'humilie. C'est vrai, hein? On lui donne. Est-ce que vous, depuis que j'ai prêché ça, est-ce que vous avez regardé Mary Poppins? Oh, les vilains. Si, il y en a qui ont regardé. N'est-ce pas que c'est joli? N'est-ce pas que c'est beau? Ça nous aide à voir vraiment des choses de cœur, des choses de... Et puis, il y a des choses intelligentes dans ce film, vraiment de cœur. Eh bien, relevons-nous et remercions Dieu pendant que les musiciens s'approchent et prenons cette décision. Eh bien, maintenant, je vais mettre de l'élégance dans ma vie si j'en ai pas et je vais apprendre. Je vais être à l'écoute du Saint-Esprit pour mieux faire, pour mieux dire, pour être... Je vais être un apprenti avec le Seigneur dans son Église et avec ses ministères. Merci Seigneur Jésus. Sois béni mon Dieu. Nous allons chanter un chant, lequel nous allons chanter? Les yeux de Dieu. C'est le 28. Les yeux de Dieu. 48. Les yeux de Dieu. Pardon. Du haut des cieux, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir. Ce dont le cœur lui appartient, il entend. Il connaît tes misères, les secrets de ta vie. Il t'aime à l'infini. Il a souffert pour toi, la mort à Golgotha. Et c'est qu'il est ressuscité. Du haut des cieux, du haut des cieux, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ceux dont le cœur lui appartient. Il te donne la foi et reconstruit en toi tout ce qui est détruit. Oh, donne-lui ta vie. Jésus est ton sauveur, voilà le vrai bonheur. Du haut des cieux, les yeux de Dieu partout la terre. à Jésus. Gloire à Dieu. Moi, j'ai donné mon cœur à Jésus le 1er juin 1968. Raphaël, quand il a prêché, il a dit, vous savez, on peut regretter de s'avoir marié, mais on ne peut pas regretter d'avoir connu Jésus. Ben, je ne vais pas regretter non plus de m'être marié. Et c'est quand même rigolo parce que quand il a prêché en Auvergne, dans une petite ville d'Auvergne, il y avait ma belle-mère qui était là, mon beau-père et ma femme qui était toute petite. Et il a dit la même chose, on peut regretter de s'avoir marié, mais on ne peut pas regretter de connaître Jésus. Parce qu'il disait toujours ça dans toutes ses prédications. Est-ce que tu as regretté de t'être marié? Aujourd'hui, je vous annonce la première chose que nous allons faire avec Michou. Nous avons décidé ça l'autre jour. Aussitôt que le château est vendu, eh ben, on va aller s'acheter des bagues pour le mariage éternel. Ça sera bien, ça. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Enfin, comme un dernier chant, et puis après, notre frère va nous faire... Il a un nouveau chant qu'il a fait. Moi, j'aime bien, je les aime bien les deux, mais tu vas nous faire la country pour qu'on passe sur le country, ouais. Qu'on parte là-dessus, d'accord, ouais, pendant ce chant.
N'effacera pas mes rêves, la certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai, Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, mène à la paix du roi des rois. Oui, c'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. Mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. Une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois.
pour ce bon moment passé ensemble. Merci pour ta parole toute simple de ce matin. Merci Jésus de nous bénir et de nous accompagner. Merci Seigneur Jésus pour ton élégance envers nous qui ne méritons vraiment pas que tu sois élégant. Merci, merci Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, bonne journée.